en chantant le premier cantique, disant quelque chose du bon berger, de celui qui nous aime, de celui qui nous unit. Le Seigneur m'a mis à cœur quelques passages de l'évangile de Jean, où le Seigneur lui-même se présente. Ce sont ces « moi, je suis » de l'évangile de Jean, auxquels probablement vous vous êtes tous arrêtés une fois ou l'autre. Y aurait-il un croyant dans cette salle qui ne se soit jamais arrêté devant celui qui a dit « moi, je suis ». Moi, je suis le pain de vie. Moi, je suis la lumière du monde. Moi, je suis la porte. Moi, je suis le bon berger. Moi, je suis le chemin, la vérité, la vie. Moi, je suis la résurrection, la vie. Moi, je suis le vrai Seigneur. Chantant ce cantique 133, le Seigneur m'a mis à cœur ces quelques passages et que j'introduirai par ce mot du premier chapitre de Jean, au verset 16 du premier chapitre de l'évangile de Jean, car de sa plénitude, nous tous, nous avons reçu et grâce sur grâce. Il me semble que ce court passage doit faire vibrer le cœur de quiconque ici connaît vraiment Jésus personnellement, de sa plénitude. Le mot veut dire ce qu'il veut dire. Permettez-moi que je m'exprime ainsi, mais nous tous, chers amis, nous avons reçu grâce sur grâce. Y aurait-il quelqu'un dans ce local qui n'ait jamais avancé sa main de perdu pour saisir celle qui a été percée à Golgotha? Y aurait-il quelqu'un dont le cœur ne se soit jamais ouvert pour recevoir ce grand salut? Tite 2 nous rappelle ce qu'est ce don de la grâce de Dieu qui est apparu à tous les hommes. Cette grâce qui nous enseigne et cette grâce qui appelle notre regard à se porter et à s'arrêter sur une personne, sur un nom, sur le Seigneur Jésus. J'aimerais tellement bien aimer que ce soir ensemble, nous portions notre regard sur lui. Car de sa plénitude, je le répète, nous tous, toi et moi, nous tous, nous avons reçu et grâce sur grâce. Nous nous sommes peut-être habitués au cours des années à entendre parler de lui, à lire quelque chose de lui. Nous avons ouvert notre Bible. Nous avons chanté des cantiques à sa gloire, probablement. Mais mes amis, est-ce que nos cœurs l'ont vraiment reçu? Est-ce que nos cœurs sont vraiment engagés pour celui qui, le premier, s'est engagé pour nous jusqu'à la mort et à la mort même de la croix, pour reprendre l'expression de Philippiens 2 que chacun connaît? J'aimerais que ce soit nos cœurs vibrent de reconnaissance et d'adoration devant Dieu notre Père qui nous a donné un tel sauveur et devant celui qui a dit un jour « Me voici, ô Dieu, pour faire ta volonté. » Un frère de ce pays, de France, que j'ai connu il y a fort longtemps, nous disait en Suisse: votre christianisme sera vrai dans la mesure où souvent vous vous arrêtez devant la croix, ou souvent vous vous arrêtez devant le tombeau vide, ou souvent vous portez votre regard sur lui qui est élevé dans la gloire et qui vient bientôt. J'étais très jeune, mais ce sont des expressions, des paroles qui sont restées de sa grâce. Dans le chapitre 6 de cet évangile, nous avons ce premier « Moi, je suis ». Nous n'irons pas tous les passages. Dans le début de ce chapitre, c'est une foule qui est nourrie par le Seigneur Jésus. Les moyens étaient réduits. C'est un petit garçon qui avait 5 pains d'orge et 2 poissons. 5, c'est faible. Ce n'était même pas des pains blancs, des pains d'orge. Et puis 2 poissons, c'est l'extrême faiblesse. Mais dans la main du Seigneur et sous la puissance du Seigneur, il y a nourriture pour des milliers de personnes. Et les frères qui sont appelés à se lever dans les assemblées pour lire et dire quelque chose de la part du Seigneur ne sont-ils pas semblables à ce petit garçon qui a besoin d'avoir affaire à celui qui sait, à celui qui donne, à celui qui lit dans nos cœurs, mes amis. Eh bien, dans ce chapitre 6, il nourrit la foule. Et dans la suite du chapitre, nous devons réaliser ce qui est alors la nourriture de nos âmes. Quand il nous dit, au chapitre 6, nous lirons au verset 35, Jésus leur dit, moi, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Il dira plus loin, verset 51, moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Il dira au verset 53, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Autrement dit, si vous ne recevez pas dans votre cœur Jésus comme sauveur, celui qui est mort pour ôter vos péchés, vous êtes en route vers le jugement. C'est pourquoi le Seigneur nous donne une explication de ce qui vient d'être lu avec le verset 63. Les paroles que moi je vous ai dites sont esprit et sont vie. Sont esprit et sont vie. Mes amis, le Seigneur est le sauveur de quiconque croit, de quiconque se repent, quiconque peut dire, comme l'apôtre Paul, bien sûr, le Fils de Dieu m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Galates 2:20. Mais le Seigneur est aussi ce pain qui nourrit l'âme des bien-aimés. Ah, que tous nous ayons faim de ce pain, mes amis. Nous nous sommes peut-être habitués au cours des années à recevoir beaucoup. Grâce sur grâce, en effet, nous l'avons rappelé par le premier chapitre. Mais peut-être que notre désir n'est pas d'avancer dans le pays. Cela est demandé à Josué au début de son livre. Comme l'apôtre Pierre, à la fin de sa deuxième épître, nous dit « Croissez dans la grâce et la connaissance du Seigneur Jésus-Christ ». J'aimerais que ce passage de Jean 6 nous rappelle ce qu'est le Seigneur comme sauveur et ce qu'il est comme nourriture des bien-aimés de Dieu qui le connaissent et qui portent leur pas vers la maison où ils sont aimés, où ils sont attendus, où des places ont été préparées au prix que vous savez. Il y a un deuxième, moi je suis au chapitre 8 et au verset 12, et chacune de ces expressions est un appel à nos cœurs et à nos yeux. Verset 12, Jésus donc leur parle encore, disant, « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Quelle grâce, chers amis, d'avoir été élevés dans des familles où la parole de Dieu a été ouverte, dans des familles où le Seigneur est l'hôte de la maison, dans des familles où, de bonne heure, les enfants ont dû réaliser ce que sont les ténèbres et ce qu'est la lumière. Les familles où, comme le dit Luc 11 dans son verset 33, je crois, « afin que ceux qui entrent voient la lumière ». Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit, mes amis, remarquons bien, celui qui me suit, c'est personnel, c'est pour chacun, celui qui me suit. Nous arrive-t-il de rendre grâce par le fait que nous connaissons celui qui est la lumière? Nous le faisons le dimanche matin, je veux bien, les assemblées, dans les réunions, mais c'est dans la mesure où nos cœurs sont touchés, engagés jour par jour, moment après moment, qu'il y a alors ces rencontres heureuses, où comme le disait un frère de votre pays, on doit sentir quelque chose de l'atmosphère du ciel. J'aimerais tellement que nous sentions quelque chose ce soir de l'atmosphère du ciel. Que nous nous disions tous, eh bien, ce soir nous sommes chez le Seigneur, nous sommes autour du Seigneur, nous sommes avec le Seigneur, nous chantons l'amour ineffable qu'un jour sans fin nous chanterons aux cieux, parce que nous connaissons celui qui a dit « Moi, je suis la lumière ». Alors que nous étions dans les ténèbres, vous savez bien, si vous lisez la fin de Luc 1, le dernier verset, il est question des entrailles de miséricorde de notre Dieu, parce qu'il nous a donné celui qui est le soleil levant, l'Orient d'en haut, qui nous a visités, qui est venu jusqu'à nous dans notre misère, assis dans les ténèbres, pour alors conduire nos pieds dans le sentier, dans le chemin de la paix, des ténèbres à la lumière, de Satan à Christ, du monde loin de Dieu à Dieu lui-même. Pour reprendre ce qui est écrit dans les épîtres de Jean spécialement, dans le premier chapitre, du livre de la parole de Dieu, il est déjà question de la lumière, vous le savez bien. Il y a même une expression que j'entendais quand j'étais très jeune enfant. Dieu vit que la lumière était bonne. Mon cher frère nous disait, nous avons là déjà, dans la première page de la Bible, une appréciation de Dieu le Père concernant Dieu le Fils. Il nous lisait bien sûr à ce propos le verset 6 de 2 Corinthiens 4. J'aimerais le lire avec vous pour que nous entrions un peu dans ce verset 12 de Jean 8. 2 Corinthiens 4, 6. Car c'est le Dieu qui a dit que du sein des ténèbres la lumière resplendit, qui a reluit dans nos cœurs pour faire luire la connaissance de la gloire de Dieu dans la face de Christ. Il faudra l'éternité pour entrer plus avant et mieux que ce soir dans ce que nous dit ce passage. Quand nos corps d'infirmité, de faiblesse, comme dit Philippiens 3:20, seront transformés par celui qui a ce pouvoir de les transformer, c'est le Dieu qui a dit. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la nuit. Oh mes amis, que la joie de connaître le Seigneur Jésus ne doit pas transparaître sur nos visages, puisque nous connaissons celui qui est la lumière de la nuit. Nous avons besoin de réaliser ce que sont le salut, la paix, le pardon, ce qu'est la joie d'un cœur qui a reçu Jésus et qui vit avec ce contact, avec cet engagement de cœur. Il aura la lumière de la nuit. Il y aurait bon nombre de passages à citer, vous le pensez bien, mais le sujet est tellement étendu. La personne qui est devant nous est si grande, il est grand et magnifique, comme nous le chantons quelquefois dans le cantique 135, que nous marquons le pas, permettez cette expression qui est peut-être toute de Suisse, nous marquons le pas devant un tel nom. Au chapitre 10, nous avons chanté quelque chose du berger, au bon berger sous ta houle. Au verset 7, Jésus donc leur dit encore, en vérité, je vous dis que moi, je suis la porte des brebis. Tous, autant qu'il en est venu avant moi, sont des voleurs et des larrons, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, il trouvera de la pâture. Verset 10 au milieu, « Moi, je suis venu afin qu'elles aient la vie, qu'elles l'aient en abondance. Moi, je suis la porte. » La porte du salut. Il y a une entrée, chers amis. C'est pourquoi dans le 30 du Deutéronome, nous avons déjà ce mot, « Choisis la vie afin que tu vives. » Il y a donc un choix à faire, une décision à prendre. Choisis la vie afin que tu vives. Autrement dit, il faut entrer par cette porte qu'il est lui-même. Et alors, ce qui est écrit à la fin du passage que nous venons de lire, c'est pour avoir la vie en abondance. Ne devons-nous pas reconnaître, et moi le premier, que souvent nous vivons un peu relativement. Nous sommes reconnaissants, bien sûr, de connaître Jésus, sa main charitable, de réaliser que notre avenir est assuré. Mais le Seigneur veut que le connaissant lui-même, dans tout ce qu'il est, nous ayons cette vie en abondance. Que ce ne soit pas relatif aux circonstances, à ce que je pense, à ce que je connais, à ce que je sais, mais relatif à ce contact avec lui. Nous ne sommes pas étonnés, chers amis, que tout au long de l'Écriture, il soit si souvent souligné qu'il faut lever les yeux. Le livre de la Genèse à l'Apocalypse. Et Dieu a voulu que même chez ce jeune messager de la grâce qui était Zacharie, Dieu a voulu qu'on sache que 5 ou 6 fois, dans le début de son livre, il lève les yeux et il voit. Que je sois ce chrétien qui lève les yeux et qui voit. La vie en abondance. Et puis, quatrième, moi je suis, nous l'avons là, au verset 11. Moi, je suis le bon berger. Le bon berger met sa vie pour les brebis. Et l'homme qui reçoit des gages, qui n'est pas le berger, à qui les brebis n'appartiennent pas en propre, voit venir le loup, laisse les brebis et s'enfuit. Le loup les ravit, il disperse les brebis. Et au verset 14, « Moi, Je suis le bon berger et je connais les miens et je suis connu des miens comme le Père me connaît et moi je connais le Père. Et c'est dans les versets 27 et 28. Mes brebis écoutent ma voix et moi je les connais. Elles me suivent et moi je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. Personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. J'aimerais que cette expression, frères et sœurs, chers amis, reste comme une gravure sur nos cœurs. Comme si le Seigneur passait devant chacun de nous ce soir en te disant, en me disant, moi, je suis le bon berger. Moi, qui ai donné ma vie pour toi. Moi qui ai été élevé de la terre sur une croix, et c'est moi qui ai créé le bois de cette croix. Moi, je suis le bon berger. Et bien sûr que le mot « bon » met un contraste frappant avec ce qui est écrit par ailleurs en Ézéchiel, d'ailleurs, les mauvais bergers, et ce qui est déjà dans ce chapitre. Il est le grand berger, le grand pasteur des brebis, pour reprendre l'expression des épîtres. Il est le souverain pasteur. Frères et sœurs, nous sommes dans le cortège, emmenés par le bon berger, par le grand berger, par le souverain berger. Ne l'oublions jamais. Quelle grâce, quel privilège pour réaliser dans ce monde qui évolue au milieu de tant de choses, de tant d'inquiétudes, de famines, de guerres, réaliser qu'à notre tête, autour du chef, ne soyons qu'un. Pour le rappeler, de réaliser que nous sommes emmenés, conduits vers la maison où des places ont été préparées au prix que vous savez, où nous sommes attendus et où nous entrerons bientôt, peut-être ce soir. Attendons-nous le Seigneur comme s'il venait ce soir. Moi, je suis le bon berger. J'aimerais m'arrêter un instant sur ce verset 14. Je suis le bon berger, je connais les miens. Et je suis connu des miens, comme le Père me connaît, et moi je connais le Père. J'étais très jeune, et un frère s'était arrêté longtemps dans une méditation sur ce verset 14 de Jean 10, en nous disant que entre le Seigneur et les siens, il y avait un aller-retour d'amour. Quand il dit « Je connais les miens » et quand il dit « Je suis connu des miens », c'est le retour. Aller-retour d'amour entre le cœur de Jésus, ton Sauveur, et ton cœur, cher ami. C'est un passage qui doit faire vibrer nos cœurs de reconnaissance. Parce que le Seigneur ajoute, comme le Père me connaît, et moi je suis connu. Est-ce que nous réalisons ce niveau où la mort, la victoire de Christ nous a amenés, comme le Père me connaît, et moi je connais le Père. Rien moins que cela, mes amis. Et puis, au travers de ce passage, nous pourrions nous étendre longtemps sur ce qu'est Christ pour ses bien-aimés. Lui qui lit dans nos cœurs ce soir, qui sait ce que sont peut-être nos pourquoi, nos inquiétudes, Il sait que nous nous posons des questions peut-être pour le jour de demain. Mais quelle grâce de connaître celui qui a la langue des savants, pour reprendre le mot d'Ésaïe 50 dans son verset 4. Celui qui soutient par une parole ceux qui sont là dans le chemin. Connaître celui, comme le dit la fin d'Hébreux 2, dans les versets 17 et 18, qui est miséricordieux, qui est fidèle, qui est à même de nous secourir. Y aurait-il quelqu'un dans ce local qui ne puisse pas dire que le Seigneur a été miséricordieux, fidèle, quelqu'un qui n'a pas été secouru? Peut-être même que nous n'avons pas réalisé toutes les fois que le Seigneur nous a secourus, qu'il nous a portés, pour reprendre un verbe qui revient souvent dans l'Écriture. Je vous ai porté, je vous porterai. Il est miséricordieux, fidèle. Y aurait-il parmi nous un cœur chargé ce soir? Oh, cher ami, viens à celui qui s'est engagé jusqu'à la mort pour toi. Celui qui, en face du tombeau où était déposé le corps de son ami Lazare, s'arrête. Nous avons deux mots qui nous donnent, au fond, comme le cœur à découvert du Seigneur Jésus. Jésus. La sympathie de Jésus, l'amour du Sauveur, les ressources de cette grâce qui nous environne, qui nous porte, qui nous emporte vers le lieu où nous allons arriver tantôt. Je connais les miens et je suis connu des miens. Quel passage que celui-là. Ah, il faut nous y arrêter. Il faut porter notre regard vers lui. Grâce sur grâce. Plénitude. Il y a un cinquième. Moi, je suis. On parle de temps matériel. Nous arrêter longtemps sur chaque passage dans le chapitre 11, au verset 25, Jésus lui dit, il parle donc à Marthe, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, encore qu'il soit mort, vivra. Et quiconque vit et croit en moi, ne mourra point à jamais. » Précieux passage qui a réjoui tant d'amis dans la peine, dans le deuil. Il est question, vous le savez tous, de cette famille qui recevait le Seigneur Jésus et ses disciples, alors que ailleurs on cherchait à le faire mourir. Sept fois, dans l'évangile de Jean, si ma mémoire est fidèle, les Juifs cherchent à faire mourir le Seigneur. Sept fois. Mais voilà une famille qui le reçoit, qui l'honore, qui l'accueille. Et c'est là que l'épreuve frappe. C'est là qu'il y a un malade. C'est là même, quand on fait dire au Seigneur que Lazare est malade, qu'il attend encore deux jours. Impossible à comprendre pour l'esprit humain. Mais c'est le chapitre où il y aura ce « Moi, je suis la résurrection et la vie ». C'est le chapitre où une voix forte retentira. Lazare sort dehors, la voix du puissant qui ressuscite les morts. Cela donne au passage de 1 Thessaloniciens 4, bien sûr, une saveur particulière. Il est écrit que le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, Et la voix d'archange. Pourquoi la voix d'archange? Chaque fois que l'archange est nommé, que ce soit dans Jude ou dans Apocalypse 12, c'est qu'il y a contestation, c'est qu'il y a une bataille. La voix d'archange, c'est la voix du Seigneur Jésus qui fait taire l'opposition de l'ennemi. Le passage de 1 Thessaloniciens 4 doit retenir notre attention, chers amis. La voix d'archange, nous chantons cela à la fin du cantique 56, ça fait là, dans une strophe. Et puis la trompette de Dieu. Lazare sort dehors. Peut-être que des amis ici ont connu un deuil récent, mais plus loin dans le passé. Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, encore qu'il soit mort, vivra, et quiconque vit et croit en moi ne mourra point à jamais. Les frères, bien sûr, ont vu dans la fin de ce passage le fait que nous serons enlevés, que nous ne passerons pas par la mort. Le Seigneur vient, comment que nous sommes là, bien sûr. Et puis, il y a le Jean 14, le « moi, je suis », qui a été rappelé souvent parmi nous, rappelé divers services. Verset 5, Thomas lui dit « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit « Moi, je suis le chemin et la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Si je lis de la bonne façon, je réalise donc que le Seigneur porte un titre particulier, puisqu'il est le chemin. Et pourquoi est-il le chemin? Pourquoi porte-t-il ce titre? Un chemin, dans la logique des choses, conduit d'un endroit à un autre. Or, le Seigneur Jésus me prend, moi, perdu, dans mes fautes et dans mes péchés, dans la misère profonde, et il m'amène sur ce terrain de vie éternelle. Ce terrain de résurrection, ce terrain de relation avec Dieu, pour autant, bien sûr, que par la repentance et la foi que lui appartiennent. C'est bien logique, mais il est le chemin. Moi, je suis le chemin. Oh, chers amis, se pourrait-il que autour de nous, chez ceux que nous côtoyons, que nous connaissons, se pourrait-il que quelqu'un ne connaisse pas celui qui est le chemin? Il y aurait tant de passages à rappeler. Il est la vérité. Ici-bas, il y a longtemps, la vérité a été vue en marche dans une personne. La personne traversait la Samarie pour aller rencontrer une pauvre femme divine. La misère profonde rencontrait l'amour suprême. Misère de cette femme, mais l'amour suprême qui était devant elle. Le don du ciel. Si tu connaissais celui qui te parle, tu lui eusses demandé à boire. Si tu connaissais le don de Dieu. Oh, mes amis, la vérité en marche ici-bas, la vérité en face du mensonge, en face du menteur et du meurtrier. Et nous pourrions bien sûr allonger sur le sujet. Et puis, il est la vie. J'aimerais que ce mot « vie » reste aussi sur nos cœurs en gravure. Tous ces passages qui appellent notre regard à se porter sur le Seigneur soulignent ce qu'est la vie, le pain de vie, la lumière, la vie. Celui qui est la porte et qui donne la vie en abondance. Le bon berger qui donne sa vie, qui laisse sa vie, qui met sa vie dans les expressions de la parole. Celui qui est la résurrection et la vie. Chemin, la vérité, la vie. Et alors dans Jean 15, nous avons au premier verset, « Moi, je suis le vrai cep, et mon Père est le cultivateur. » Voilà la plante mère, si j'ose m'exprimer ainsi, voilà la souche. « Moi, je suis le vrai cep. » Et ce mot « vrai », bien sûr, nous fait penser à un faux cep, qui a pourtant été cultivé, qui a été soigné. Il faut lire Ésaïe 5, il faut lire Jérémie 2 pour réaliser ce qu'était ce mauvais cep en contraste avec le Seigneur qui est le vrai cep. Et les croyants sont les sarments. Ils ont peu de valeur, les sarments, mais s'y prennent à la souche même. Ils seront utiles pour ceux qu'ils rencontrent. C'est pourquoi nos frères, quand ils méditaient le psaume 46 dans ses versets 4 et 5, insistaient sur ce côté des choses, sans rien enlever à ce qui est prophétique. Il y a un fleuve dont les ruisseaux réjouissent la ville de Dieu. Dieu est au milieu d'elle. C'est le passage du psaume 46. Son verset 4. Là, c'est le Seigneur, c'est toujours le même, mais il nous demande d'être les ruisseaux qui, abreuvés au fleuve même, réjouissent la ville de Dieu. Dieu est au milieu d'elle. Il y a un mot que j'aimerais rappeler à propos de ce psaume pour notre encouragement. Psaume 46, versets 4 et 5, donc, pour ne pas enlever quelque chose. Il y a un fleuve, verset 4, dont les ruisseaux réjouissent la ville de Dieu, le saint lieu des demeures du Très-Haut. Nous en avons dit un mot. Dieu est au milieu d'elle. Elle ne sera pas ébranlée, cette ville de Dieu, le saint lieu des demeures du Très-Haut. Pourquoi? Dieu la secourra au lever du matin. Que de fois j'ai entendu au cours des années, des dizaines d'années, rappeler que le dernier acte de la miséricorde divine, c'est notre enlèvement. Dieu la secourra, cette ville de Dieu, au lever du matin. Dieu la secourra. Si vous lisez Jude dans son verset 20, il y a quatre choses rappelées, et la dernière, c'est en effet notre enlèvement au séjour de la vie. Dernier acte de la miséricorde, notre enlèvement. Jude 20, quatre choses, et la dernière, c'est notre enlèvement au séjour de la vie. Moi, je suis le vrai cep. Mon Père est le cultivateur. Et bien sûr, il est question de tout sarment en moi. En moi. De nouveau, nous avons cette liaison. Nous sommes comme, permettez l'expression peut-être un peu triviale, comme fondus dans l'amour de Dieu le Père et de Dieu le Fils, que nous lisons par ailleurs plusieurs fois dans l'Évangile. Mais en Jérémie 2, j'aimerais dire un mot de ce mauvais cep. Pas seulement citer les passages de mémoire, mais souligner, comme la chose est écrite dans la parole de Dieu, mot pour mot, Jérémie 2, de bien faire comprendre ce mot. Moi, je suis le vrai cep. Oui, au verset 21. Et moi, je t'avais planté un cep exquis, une toute vraie semence. Comment t'es-tu changé pour moi en sarment dégénéré d'une vigne étrangère? Quand tu te laverais avec du nitre et que tu emploierais beaucoup de potasse, ton iniquité reste marquée devant moi, dit le Seigneur. Au verset 19, ton iniquité te châtie, tes rébellions te reprennent. Ce cep Israël qui avait été planté, nous avons déjà une expression dans le livre des Psaumes et ailleurs, Ésaïe 5 déjà cité. Je t'avais planté, j'ai pris soin de toi, mais tu t'es éloigné. Tu n'as rien voulu savoir de moi, mais moi, je suis le vrai cep. Mon père est le cultivateur, et toi, par grâce, tu es un sarno. Tu es ce ruisseau qui, abreuvé au fleuve même, doit réjouir la ville de Dieu. Dieu est au milieu d'elle. Frères et sœurs, pensons à ce passage. Que nous soyons, chères sœurs, chers frères, connaissant le Seigneur, ses instruments dans sa main pour réjouir ceux qui sont assemblés au nom précieux du Seigneur Jésus, ceux qui l'attendent, ceux qui ouvrent sa parole avec un sentiment de reconnaissance et d'adoration. Et c'est à la fin de cet évangile, vous le savez bien, qu'un disciple pose une question, demande ce qui arrivera à l'autre disciple. C'est à la fin de cet évangile de Jean que nous avons ce mot du Seigneur à Pierre. Toi, suis-moi. Eh bien, en rappelant, en chantant ce cantique 133 déjà, et en rappelant ces plusieurs « moi, je suis », est-ce que le Seigneur ce soir ne me pose pas une question particulière? À moi le premier. Toi, suis-moi. Tu connais celui qui est le pain de vie. Tu connais celui qui est la lumière de la vie. Tu connais celui qui est la porte, qui donne la vie. Tu connais celui qui est le bon berger, celui qui ressuscite les morts, celui qui est le chemin, la vérité, la vie, celui qui est le vrai cep. Pourrais-tu ne pas suivre Jésus? Pourrais-tu ne pas t'engager pour lui, qui le premier s'est engagé jusqu'à la mort et à la mort même de la croix? Toi, suis-moi, ô mes amis. Vous savez que dans le chapitre 32 du livre des Nombres et au verset 12, il est question de deux hommes qui ont pleinement suivi l'Éternel. À part ces deux hommes et cet adverbe pleinement, je ne vois pas d'autres passages. Il soit question de ceux qui ont suivi pleinement l'Éternel. Nombre 32, 12, chacun peut contrôler pour lui-même. Et en pensant à nos sœurs, ce n'est pas à l'aventure qu'à la fin des évangiles, il soit question des femmes qui ont suivi et qui ont servi le Seigneur depuis la Galilée jusqu'à la croix. J'aimerais que le rappel de ces deux passages, nous sommes exhortés par le cantique à nous aimer l'un l'autre, j'aimerais que le rappel de ces deux passages, pour les frères, comme pour les sœurs, soit un encouragement particulier pour nous tous, pour aller de l'avant. Dans ce monde qui évolue, je le répète, de la façon que vous savez, portons notre regard en avant, en haut, vers celui qui nous aime, vers celui qui nous unit, vers celui qui vient bientôt Et nous l'avons dit tout à l'heure, peut-être ce soir, vous savez que nos Bibles ne se ferment pas sans que par trois fois ces mots retentissent. Je viens bientôt, oui, je viens bientôt. Bientôt.